Et de la belle visite sur la terrasse de Pids Contrecoeur, Marco Cagliari, qui revient de vacances. On est son premier arrêt de travail depuis la fin de ses vacances. Marco, salut.
Salut, Luc.
Comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va très bien. Passer de belles vacances?
Oui, de belles vacances.
Parce que
bien rempli.
C'est quasiment cliché, mais la Familia est ici aujourd'hui.
Hey, écoute, c'est un gros cliché. On débarque, on est 12, mes amis, à Contrecoeur. On est 12, on est débarqué. 12 sur la route, puis pas la route à Montréal-Contrecoeur. On a fait Montréal, le Bic, le Bas-Saint-Laurent. On est même allé sur la Grosse-Île. On est allé voir des baleines à partir de Rivière-du-Loup. Puis là, on a fini ça à Valcartier. Fait que une grosse run, comme on peut dire.
Qui est parti avec toi? Là? Il y a des amis italiens.
Mes parents sont là. Ma blonde, ma fille, la fille de la meilleure amie de ma blonde et 4 invités d'Italie. De la région de mon père, qui est le Trentin, nord-est de l'Italie, juste en bas de l'Autriche. C'est leur première expérience nord-américaine. En fait,
ils sont jamais venus, OK.
Jamais. Fait qu'ils sont arrivés dimanche, puis lundi matin, on partait pour le Bic. Je voulais absolument qu'ils voient... En fait, je voulais absolument qu'ils se promènent sur le long du fleuve, parce que je trouve que le Québec, c'est le fleuve, c'est l'artère principale, c'est là que tout naît du fleuve Saint-Laurent.
Et comment ils ont trouvé ça?
Ils ont adoré, ils ont capoté, ils ont vraiment trippé sur la Grosse-Île. Chers auditeurs, ceux qui ne savent pas c'est quoi la Grosse-Île, vous arrivez à Berthier-sur-Mer, donc juste après Québec, Lévis, puis là vous prenez un bateau, vous allez sur une île qui s'appelle la Grosse-Île, et là-dessus vous apprenez que cette île-là, pendant une centaine d'années, elle accueillait des bateaux qui arrivaient. Et ils mettaient les gens en quarantaine, beaucoup d'Irlandais, à cause qu'ils ramenaient
des maladies. C'était l'île où on mettait le monde malade.
Exactement. Donc, c'est là qu'ils prenaient, puis ils jugeaient s'ils étaient pas malades.
Apte à revenir dans
exactement.
La civilisation.
Puis ça, on parle avant le vaccin. Là,
oh,
ça a été... y en a du monde qui ont été enterrés sur cette île-là. Beaucoup de monde. C'est vraiment impressionnant.
Marco, c'est 30 ans de carrière qu'on souligne avec un nouvel album, Bang Bang. 30 ans de carrière, évidemment, Marco, tu es dans la quarantaine, donc c'est 30 ans de carrière qui a commencé très jeune.
Oui.
Toi, avec tes chums d'Anonymous, parce que ça a commencé
exactement.
Avec eux autres, dans le garage.
Exactement. En fait, dans le sous-sol, dans le garage, dans un peu partout. Mais moi, à 14 ans, avec mes meilleurs amis d'enfance, les deux frères jumeaux, fils d'Espagnols, du nom de Daniel et Oscar Souto, et le Chilien, lui, est né dans son pays. Il est arrivé ici à l'âge de 6 ans. Il s'appelle Carlos Araya. Et moi-même, fils d'Italien du quartier Saint-Michel. On est des enfants de la loi 101. On s'est connus très jeunes. Puis donc, on a évolué à travers la musique, à travers le sport, à travers les bons et les mauvais coups. Et à un moment donné, à 14 ans, on a été drivés, comme on peut dire, par la musique, surtout heavy metal, qui nous a inspirés à apprendre des instruments, donc la guitare, la basse, le chant et le drum. Et de là, partir le groupe Anonymous, qui existe encore.
C'est venu comment la musique heavy metal? Parce qu'un Chilien, un Italien, en tout cas, peut-être c'est moi qui se trompe, mais ça n'a pas nécessairement grandi avec du heavy metal, non? Ou à moins qu'il y en ait, puis que je suis pas au courant. Mais...
En fait, les Chiliens, la famille chilienne, les Araya, étaient très rock et très rock ou heavy metal. Ils écoutaient, les parents de Carlos écoutaient du Black Sabbath, du Deep Purple.
Donc, il a grandi avec ça.
Lui a grandi avec ça. Lui, écoute, il y a un souvenir, Carlos Araya, d'être sur les épaules de son père à un show de Black Sabbath au Forum.
Okay.
On parle il y a très longtemps. Fait que lui était vraiment là-dedans. Moi, à la maison, en fait, c'est qu'il y avait beaucoup de vinyles bien différents l'un à l'autre. Puis ma sœur a ramené... À un moment donné, elle trippait sur Loverboy, qui n'était pas heavy metal, mais c'était quand même du hard rock. Oh, pareil, ouais. Les guitares étaient très, très hard rock. Fait que ça, c'est mes premiers pas à la maison dans la guitare distorsionnée, si je peux dire. Et de là, Def Leppard, je suis un méga fan de Def Leppard. Malheureusement, j'ai pas pu aller les voir à Montréal, j'aurais bien aimé ça. Mais je suis un gros fan de l'époque avant Hysteria. Fait que jusqu'à Pyromania, pour moi, c'est un album culte hard rock. Et de là, bon, les jumeaux, eux, ils trippaient sur Kiss avec leur père. Et Carlos Araya, lui, qui avait un peu plus d'expérience, plus longtemps dans l'heavy metal, il a évolué un peu plus vite que nous. il s'est mis à aimer des affaires très élevées, donc Pantera, Metallica, Slayer, on est grand fan de Slayer, ils vont être à Montréal demain, puis je m'en veux une autre fois de ne pas être là. Mais je les ai tous vus, tous ces groupes-là, je les ai tous vus une fois dans ma vie. J'en ai vu du show heavy metal et j'en vois encore de temps en temps. C'est, tu vois, dans la vanne, en allant au Bic, mon shuffle de mon téléphone passe de Jacques Brel à Beau Dommage jusqu'à Slayer. Et
donc, ça fait une playlist diversifiée dans la voiture.
Extrêmement diverse. Il y en a des fois qui aiment moins, il y en a des fois qui aiment bien. Fait que...
30 ans, évidemment, quand on veut souligner ça sur un album, c'est un peu complexe quand même, parce qu'il y en a du parcours, il y en a de la chanson, il y a différents univers auxquels on a touché. Et ça, c'est sur disque, mais tu as touché aussi à plein d'univers en show, avec des invités, avec des shows concepts. Est-ce que c'est un casse-tête de monter un disque soulignant 30 ans?
Ben non, c'est pas un casse-tête. Ça peut être un casse-tête, mais je l'ai vu surtout comme un... Même pas un défi, mais comme un trip. Tu sais, comment souligner 30 ans? Parce que comme tu peux voir, en fait, sur l'album, il n'y a pas écrit 30 ans nulle part.
Non.
Fait que c'est moi
qui l'annonce.
C'est
un album parmi les autres.
Exactement. C'est mon 11e album, 5 heavy metal, 6 en musique du monde, en italien. Et celui-là, pour moi, c'est inspiré de 30 ans de carrière. C'est comme ça que je l'ai vu. Donc, chaque chanson a un lien avec mes 30 ans, avec les albums d'avant. Tu sais, il y a une chanson d'octobre. La maudite machine que j'ai traduite en italien. Celle-là est un clin d'œil à mon album Mi Ricordo où je...
Tu reprenais des chansons québécoises.
Exactement. Fait que pour moi, c'est lié directement à ça. Il y a des grosses chansons italiennes, interprétations italiennes de grands noms, auteurs, compositeurs ou poètes très connus en Italie que je voulais absolument rendre hommage parce que c'est des grandes chansons qui m'ont inspiré beaucoup. Il y a des nouvelles compositions donc qui démontrent que j'ai aussi écrit des chansons dans mes albums, l'album Che la vita, l'album Al Faro Est et dans celui-là. Donc il y a trois ou quatre nouvelles chansons. Et il y a aussi des chansons fortes que j'ai repris, que j'ai remis à la sauce de 30 ans de carrière, donc Che la vita, que j'ai mis un peu d'heavy metal là-dedans, parce qu'Anonymous sont invités sur l'album, mais c'est pas pour faire peur aux gens qui sont pas pantoute heavy metal, mais c'est surtout pour démontrer une ouverture musicale. C'est que si on le disait pas, ça passerait.
Oui, c'est vrai, t'as
vraiment
raison.
Très bien. Il y a la dernière chanson qui est un conte de Michel Faubert, avec Michel Faubert, que je voulais absolument biculturaliser. C'est un face-à-face biculturel où il compte en français et je traduis en italien. À travers ça, il y a de la musique du monde, mes musiciens tuba, accordéon, clarinette. Et de temps en temps, Anonymous rentre dans le tas. C'est une œuvre de 13 minutes. Une œuvre artistique, fait que c'est sûr que c'est pas une chanson que tu vas
elle
passer
pas
à CJSO.
Aujourd'hui, non.
Exactement. Puis c'est pas le but non plus, c'est vraiment pour démontrer que tout peut se faire. On est dans le conte, on est dans l'heavy metal, on est dans la musique du monde, on est dans l'ouverture totale.
Mais tu t'es payé un trip, parce qu'il y a plein de monde sur ce disque-là. Il y a une cinquantaine de musiciens, est-ce que ça se peut?
Mm-hmm. Une cinquantaine, même ma mère est là-dessus, pour faire une narration sur une chanson que j'ai écrite sur son père, mon grand-père, que j'ai jamais connu du côté de ma mère.
Marco, t'as fait une exposition? En même temps, pour souligner tes 30 ans de carrière, c'était comment ce travail-là de retourner voir les archives, fouiller dans tes cahiers, fouiller dans les photos? C'était comment pour toi, ça? C'était une espèce de bilan en même temps?
Eh bon, ben, ça a été un travail très assidu et très, très demandant. Mais en même temps, moi, je suis un archiveur. Fait que j'ai gardé tellement d'affaires, t'as aucune idée.
Comme quoi, par exemple? Des trucs qu'on garderait pas, genre?
Il y a bien, écoute, je te dirais, le 95% de ce que j'ai montré dans l'expo, je l'aurais pas gardé.
Okay.
Sérieusement.
Genre là, des flyers de show,
on parle de une des premières cymbales à Carlos cassées, même jusqu'à des baguettes pétées de ses premiers temps. Les premiers setlists, toutes les setlists d'Anonymous et le premier, tous les billets de show. Là, je parle d'Anonymous et moi aussi. Fait que c'est en travers 11 albums, plein d'archives. Nous, on est bien... On a toujours travaillé nos décors nous-mêmes, tu sais, fait que... Toutes les vestiges de décors, des backdrops, des fonds de scène. Bref, des termes anglophones ou de musiciens. Mais une première guitare, des photos. Écoute, on en a tellement pris des photos. Fait que c'était le fun. En fait, l'exposition, on l'a fait pendant un mois. Parce que le lancement de l'album était le 28 janvier. Et le 28 janvier, pourquoi cette date-là? C'est rare, premièrement, qu'il y ait des sorties d'album en janvier. On l'a fait le 28 janvier parce que le 28 janvier 1989, il y a 30 ans, Carlos Araya recevait son drum pour sa fête. Okay. Et on a parti le band. Même si on jamais avant, c'est là, c'est ce jour-là qui était comme...
Ben, quand on fait du métal, le drum, il est assez important.
Le drum est assez important. Fait que quand c'est parti, quand il a reçu son drum, ben go! C'est là, le jour 1. Donc, le 28 janvier 2019, pour moi, c'est important que ce soit cette date-là que je fête mes 30 ans de carrière. Anonymous était là sur scène avec moi. Les gars d'Octobre étaient là. Michel Faubert était là. Mes musiciens, écoute, c'était un méchant powwow là, à la Casa d'Italia à Montréal, qui est le premier centre culturel italien, qui date de 1936 à peu près. Et c'est là qu'on a fait l'expo. Un mois de temps. Écoute, j'aurais aimé ça le garder toute l'année parce qu'on a eu beaucoup de couverture après, comme ici, CJSO. Puis je suis sûr qu'il y aurait eu quelques gens intéressés d'aller voir. Mais beaucoup de vestiges, beaucoup de vidéos, de photos, de costumes. Même des costumes, là. Écoute, plein d'affaires, là. Des lettres de fans. Il y a un fan là, qui est venu à l'expo. Puis exposé dans les... On avait vraiment des cloches en vitre, en plexi, whatever, qu'on pouvait voir plein de vestiges et tout. Puis c'était quand même bien, bien identifié. Puis le cahier de lettres de fans qu'on recevait à l'époque, on écrivait aux gens.
Ouais.
Et j'en ai une tonne, là. Puis j'avais tout mis ça, j'avais tout archivé ça. Puis la page qui était ouverte, c'était Sébastien Tremblay de Jonquière. Puis quand il est venu, il a vu ça, il a fait quand... Oh my God, t'as gardé... Ma première lettre que j'ai écrite à des artistes. T'sais. Et lui, c'est un collectionneur aussi, fait qu'il tripait bien raide, il capotait.
C'est sûr.
C'est maison, là, vraiment. Là, fait que tu sais, j'ai des frissons. Il y a plein de... Ça passe vite, ça a passé vite 30 ans. Mais en même temps... ça a passé vite. Puis on en a fait tellement de millages et on a rencontré tellement de gens que c'est ça, c'était important de faire une expo sur ça, de vraiment juste voir... pas à quel point je suis complètement toqué d'avoir gardé tout ça, mais...
Mais comme tu m'as expliqué déjà quand on a fait une autre entrevue, tu m'as dit « j'ai pas déménagé souvent ». Donc, ça explique peut-être ça. T'as pas fait le ménage de typique de déménagement, de « OK, ça, je garde ça pour rien, vidange ». Tu l'as pas fait, toi, ça, beaucoup.
T'as tout compris. Fait que, puis, tu sais, j'ai la chance d'avoir... Mes parents sont à la même maison depuis que je suis né, eux autres. Fait que
eux aussi, ils ont du stock chez eux.
Exactement, la chambre. J'ai ma chambre originale avec... Mes posters originaux, tout est là. Ensuite, dans chez moi, j'ai une maison à moi depuis 8 ans à peu près. Et avant ça, j'étais dans un appart. En fait, techniquement deux, mais en tout cas, j'étais
un longtemps plus qu'un dans autre. Un appart. Ah, ouais.
Pendant 7 ans, j'étais dans un loft. Puis là, il y en a eu de l'archive, l'instrument. Écoute, il y en a du stock. Fait que tout est bien gardé, disons.
Et de refouiller ça, est-ce que tu étais ému en revoyant ça? Parce qu'évidemment, tu le sais ton parcours, mais c'est rare qu'on l'a d'en face. Et là, en revoyant les lettres, en revoyant les vestiges d'Anonymous avec les cymbales, tout ça, en revoyant tout ça, puis maintenant que tu es papa aussi, voir ça avec ta fille aussi, il y a quelque chose d'émouvant là-dedans.
Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'émouvant. Tu sais, moi, je suis constamment là-dedans, fait que je suis dans les shows tout le temps, je suis dans les...
On regarde pas en arrière,
on regarde pas en arrière, mais en même temps... j'ai été assez, pas discipliné, mais assez ordonné pour, tu sais, à travers les années, quand même, mettons, chez Omar de Serre, j'allais acheter les espèces de gros livres là, en plastique là, où tu peux mettre des feuilles dedans.
Ah ouais.
Bref, fait que j'ai les coupures de journaux.
T'as toujours fait attention.
J'ai toujours fait attention. Donc, c'est pas comme si, après 30 ans ou après 20 ans, j'ai checké quelque chose. Tout était là, je savais.
Tu savais c'était où?
Oui, fait que c'était pas si pire. Les nostalgies, c'était plutôt les photos. Ça, je t'avoue, il y a des photos que je savais plus que j'avais, mais qui étaient quand même bien classées. Mais en fait, c'est drôle parce que, tu sais, on passe, en 30 ans de carrière, tu passes de l'ère photographique en papier imprimé, qu'Anonymous, c'est moi qui s'occupais de ça, où on prenait des photos, toutes les tournées, toutes les shows, puis ensuite, je mettais ça dans un album. Tu sais, j'en faisais 4 copies, je donnais à chacun. Puis,
c'était toi l'archiveur?
C'était moi l'archiveur, oui, mais parce que j'aimais vraiment ça, tu sais. Puis je prenais des stickers, puis là, sur les 3 pages, admettons, j'écrivais... Poliwag, Chicoutimi, 92, whatever. Donc, tout était archivé, mais à un moment donné, il y a eu la transition entre l'ère papier et numérique. Puis là, j'ai comme perdu le contrôle. Sérieusement, j'ai perdu le contrôle. Puis c'est là, là que j'ai été obligé là, de rentrer. À partir de 2002, là, tout est dans des dossiers, dans des disques durs. Puis ça c'est chiant. J'avoue, là, c'est vraiment chiant. J'aimais beaucoup mieux juste archiver en papier.
Oh, ouais,
tu sais que c'est là, ça existe. Mais là, un disque dur, c'est tellement impersonnel, c'est tellement comme absurde, un peu... Tout est dans une boîte. Une oui. boîte que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis tu l'ouvres de temps en temps. Ah oui, il y a ça. Fait qu'en tout cas, ça a été plus difficile, mais en même temps le fun, parce que là, il y a des trucs que j'avais pas vu depuis longtemps, surtout les débuts de ma carrière solo, tu sais, le premier band, le premier album 2004, les photos de studio, les vidéos, plein de vidéos que, aïe, ok, j'ai filmé ça, tu sais, une galère à Barcelone, entre deux shows, tu sais, des affaires de même, t'es comme, mon Dieu, ok, on a ça, on en parle.
Ta mère participe à l'album? Comment c'est arrivé cette idée-là de faire une pièce avec ta maman?
Ben en fait, c'est depuis longtemps, depuis quelque temps, je voulais j'avais des thèmes de chansons que je voulais écrire dessus, dont deux qui sont très personnels, qui est un qui est la tante à mon père, Celestina, la tante, excuse, la sœur à mon père, ma tante, Celestina, et un autre thème qui est le grand-père, mon grand-père, du côté de ma mère, que j'ai jamais connu. J'ai juste des photos noir et blanc de lui.
Qui était amputé, hein, c'est ce que je
comprends. Oui, en fait, c'est qu'il a perdu le bras gauche pendant la guerre mondiale, la première guerre mondiale. Et j'ai des photos de lui avec son toujours habillé en costard, puis la manche gauche qui vole, qui vole au vent. Ça m'a toujours fasciné, tu sais. Puis surtout, tu sais, mon Dieu, faire la première guerre, perdre son bras à 18 ans. Ensuite avoir femme 9 enfants. Puis, mais en fait, ce qui m'impressionne le plus, je pense, mon grand-père, c'est l'immigration du sud au nord. L'Italie, c'est long. C'est très, très long entre le nord et le sud et le nord. Et lui, il venait des Pouilles. La Puglia, c'est le talon de l'Italie. Puis donc, après la première guerre, il y a eu beaucoup d'immigration du sud jusqu'au nord parce que l'industrialisation était beaucoup, beaucoup plus au nord. Donc, ils ont passé au nord et là, ma mère est. Le dernier des frères est né. Donc, ma mère, Franca, est née. Et ma mère, je pense que ses parents, elle n'avait plus de parents à 14 ans. Donc, ma mère a été la fille un peu de tous les frères et sœurs.
Elle était la mère des autres enfants, finalement, en quelque part.
Oui, bien, le contraire. Elle était la fille, la plus jeune, tu sais.
La dernière.
Elle
était élevée par les frères.
Elle a été élevée par les frères, tu sais. S'il est venu ici, c'est parce que. S'il est venu au Québec, c'est parce qu'une de ses plus vieilles sœurs, son mari, mon oncle, a eu une opportunité de travailler ici à Montréal en usine, bref. Puis ils sont venus ici et ma tante était toute seule à Montréal. Fait que elle a demandé à ma mère, tu sais, qui ne savait pas trop ce qu'elle faisait à 18 ans, à 17 ans. Fait que là, viens m'accompagner, tu sais, viens me trouver. Si tu n'aimes pas ça, tu retourneras à Milan. Fait que ils l'ont chippé ici, puis elle a rencontré les Cagliari. Et c'est de là
qu'il y a quand même particulier que des Italiens rencontrent des Italiens.
Oui.
Et que la familia se poursuit. En dehors de l'Italie.
Oui, mais ça arrive souvent. Tu sais, oh, c'est une affaire de clan. C'est une affaire de. On ferait la même chose. C'est une affaire de. C'est l'histoire du monde. Tout le monde, ce qui se ressemble, s'assemble.
Ah, oui.
Et la différence, par contre, ça, j'aime bien ça de dire, c'est que t'es plus. Quand t'es ailleurs, dans un autre pays, en tant qu'Italien ou autre culture, c'est que tu vas t'assembler en tant qu'Italien, mais pas en tant que nécessairement que Sicilien, que Calabrese, que
il n'y a plus de division. T'es Italien.
Plus de division. Et pourtant, il y en a des divisions en Italie. Il y a des divisions dialectales, il y a des divisions de mentalité. Le Sud et le Nord veulent se séparer depuis la nuit des temps. Là, c'est pas pareil entre la Sicile et le Trentin. C'est vraiment deux mondes. Mais ici, il y a un rassemblement qui se fait en tant qu'Italien. Puis ça, je trouve ça beau. C'est la beauté de l'immigration.
Marco, tu me corrigeras si je me trompe. Il y a quelques années, je plus que 10 ans, tu vas en Italie,
oui.
Tu jammes avec quelqu'un là-bas, les gens vous demandent des chansons en italien et t'en connais aucune.
Non.
Et l'autre musicien non plus.
Qui était italien. Né là-bas.
Et là, tu décides de te mettre à rechercher des chansons traditionnelles italiennes que tu ne connaissais pas ou très peu, en tout cas, et t'achètes un livre. Ouais. C'est de là que c'est parti. L'aventure de la musique en italien.
Oui, exactement. C'est le vrai tournant où j'ai 20 ans. Je fête mes 20 ans en Italie. Donc, exactement, j'allais dire 14 ans. 24 ans, ça passe vite. Je suis à la plage avec ma cousine, bref, puis on rencontre un de ses amis qui est guitariste. Lui, on jam, il me joue du Red Hot Chili Peppers, des tunes bien anglophones, rien d'italien. Et moi, à cette époque-là, j'étais dans Anonymous, puis j'étudiais en guitare classique au Cégep Saint-Laurent à Montréal. Puis je connaissais des airs d'opéra, des airs, quelques chansons italiennes dans ma tête, t'sais, rien, mais j'en interprétais pas vraiment. Et là, en fait, cette journée-là, on s'est dit, mais pourquoi qu'on... Ma cousine nous a demandé, pourquoi vous jouez pas devant l'hôtel, là? C'est l'été, il y a plein de monde, puis tout. OK, bon, on amène nos deux guitares, on se fait un petit répertoire. Là, mon répertoire, moi, c'était... On allait de Beaux Dommages à Van Morrison, aux Beatles, à Offenbach, il y a plein d'affaires. Puis lui, tout son répertoire, plus anglophone. On mélangeait tout ça, puis ça faisait un petit show. Puis là, finalement... On joue, puis à un moment donné, un monsieur qui se lève, il dit « Ah, pourquoi vous ne jouez pas des chansons italiennes? » Et là, moi, je me suis pas senti visé, parce que moi, je suis pas né en Italie.
Fait que tu te fies sur
toi. Moi, je regarde mon buddy, Franco, je pense qu'il s'appelait, puis je lui demande « OK, ben, tu joues donc une tonne italienne? » Il dit « J'en sais pas, j'en joue pas. » Je suis comme « Oh my God! » En tout cas, moi, ça m'a marqué ce moment-là, j'étais gêné. Fait que je suis revenu, ce moment-là m'a marqué tellement que je l'ai vu dans ma tête pendant longtemps. Puis quand je suis revenu à Montréal de ce voyage-là, ben je suis allé chez Archambault, Berry et Sainte-Catherine. Puis je suis allé fouiller dans les livres. À un moment donné, j'ai pogné un gros livre de chansons italiennes. Je l'ai acheté, j'ai mis ça dans mon sac à dos. Puis peu à peu, j'y sortais de temps en temps. Et c'est là que j'ai appris Bella Ciao, O Sole Mio, Torna Surriento, des airs napolitains, des airs classiques aussi. Que je reprenais. Juste le fait d'apprendre les accords aussi, c'est d'être capable de s'accompagner. Ouais, donc, mais ça s'est fait en cachette. Là. Personne ne savait que je faisais ça, ni mes parents, personne. Fait que pendant des années, j'accumulais des chansons et à travers ça, je commençais à écrire des chansons comme Che la vita, qui est la pièce titre de mon premier album. Mais ça a pris du temps. Là, on parle de cet événement-là, c'était en 1994. Puis mon premier album est sorti en 2004.
Donc, ça a pris 10 ans. Plus tard, 10 ans.
Hein. Ça a pris 10 ans à accumuler des tunes parce que j'ai écrit mes tunes. Pour le premier album, je suis rentré en studio, j'ai fait juste des compositions, sauf une interprétation, une chanson napolitaine qui était dans ce livre-là, et une chanson d'Anonymous que j'ai repris en Musique du Monde. C'est comme ça que ça partit.
Et donc, tu enregistres un démo pour les 60 ans de ton père, non? Est-ce que c'est ça?
Il y a 17 ans. Fait qu'il y a 17 ans, exactement.
C'est là que la famille découvre.
C'est là que la famille découvre peu à peu que... En fait, ils ont découvert à un moment donné que j'avais ce livre-là. Ça, je vais m'en rappeler comme si c'était hier. À un moment donné, je sors ce livre-là à Noël. Puis moi, j'ai ma guitare à la main. Là, toutes mes oncles, ça passe le livre. Puis, hey, joue ça. Puis là, tout le monde qui...
Eux, c'est leur chanson à eux. Ben, ils ont gradué.
Ben oui,
ça,
même s'ils ne venaient pas de leur région, nécessairement, toutes les chansons. En tant qu'Italien, ils connaissent.
Là-dedans.
Oui, il y a des classiques. Tu sais, chaque province a ses grosses tunes, si je peux dire. Fait qu'ils connaissaient, bien sûr. Mais après ça, c'est ça, j'ai fait un démo. Donc, avant de sortir l'album en 2004, j'ai fait un démo de 4 tunes, 4 compositions qui se sont retrouvées sur le premier album de Mika. Bref, j'ai fait un petit CD vraiment simple, là, guitare voix gazou. À l'époque, on brûlait nos CD avec nos Mac, puis là, je brûlais ça, j'en ai brûlé 1000, mais pas d'une shot.
Non, j'en ai
vendu vraiment 1000 de 5 à 6 piastres. Mais le soir du 60e à mon père, j'ai loué le Lion d'Or, une place que j'ai toujours adoré, même avant de faire de la musique du monde.
Ouais, magnifique ça.
Magnifique salle, intime, puis en même temps très, très, très animée, si je peux dire. Elle a des esprits. Et c'est ça, fait que j'ai invité 300 amis à mes parents pour fêter, ils en ont des amis, mes parents, pour fêter leur fête. Et là, j'ai sorti le CD en même temps, fait que vous pouvez comprendre que j'en ai vendu 300 en partant. j'ai un peu de queen de business en moi. Fait que j'ai sorti ça, puis ce démo-là, ben, il s'est ramassé dans les mains de Chantal de Collectivo. Collectivo qui font de la musique du monde. C'est un collectif de
musiciens.
Ils sont
9, quelque chose comme ça. Ils sont beaucoup sur scène.
Ils sont comme 13, 15, ouais. Là, ça n'a aucun sens. Puis ils étaient en train de confectionner leur premier album. Puis quand ils ont entendu ma compo, Che la vita, en guitare voix, ils ont fait comme, mon Dieu, hey, ça tente-tu d'être sur notre premier album? On fait une version à 15 musiciens. Go! Fait que ça a été ça, la première version en full band. Mais cette chanson-là, c'est ça, elle a eu plein de versions, tu sais. La version solo, la version en full band collectivo. Après ça, la version de mon premier album qui est La Vita. Après ça, il y a une autre version, écoute, ça finit plus, puis il y en a une sur mon album Bang Bang. C'est comme une chanson, pour moi, c'était comme un running gag en même temps. Elle se réinvente tout seule, la chanson.
T'es comment d'intégrer Anonymous à ce projet-là? Parce qu'évidemment, t'as fait beaucoup de rock, de métal en français avec Anonymous, pas nécessairement en italien, t'as pas joué de pièces classiques italienne beaucoup avec Anonymous. C'était comment de les amener dans cette facette-là de toi?
Ben un certain défi, mais pas tant. Parce que Carlos Araya joue avec moi depuis mon premier album.
Fait que lui, il connaît les chansons.
Oui, il connaît les chansons, puis il connaît ma direction musicale, tu sais. Fait que il y a 5 ans, on fêtait 25 ans, j'ai fait un premier test avec La Vita et Bella Ciao. Juste un petit EP de 2 tunes. Moi, je l'entendais dans ma tête. Là, j'avais mon réalisateur, mon arrangeur, Anonymous. Anonymous, il était comme pas trop sûr où est-ce que je m'en allais, mais Carlos me faisait confiance. Il m'en est rentré en studio, il fait le squelette. Là, commence à intégrer les instruments, puis là, le party commence. Et là, et tout est en dosage. Fait que Anonymous, ils m'ont fait confiance pour cet album-là. Il y a des trucs... tu sais, il y a des guitares que j'aurais pu faire moi, mais je voulais absolument que ce soit eux. Je voulais que ce soit Jeff Fortin, lui, qui a pris ma place depuis 2007, là, mon Dieu, ça fait 12 ans déjà. Je voulais que ce soit les jumeaux, Daniel Oscar à basse, Daniel à guitare. Je voulais avoir leur son et leur technique musicale aussi, et aussi vocalement. Il y a des fois, ils sont là en back vocal et tout ça, mais c'est tellement bien dosé que le commun du mortel s'en rendrait pas compte. Faut vraiment. Je pense que c'est juste le fun de savoir. Autant pour les fans d'Anonymous que d'autres, que aïe, ok, il y a Anonymous là-dedans parce que c'est bien écrit, il y a des tunes, c'est vraiment écrit
sur
Anonymous. Fait que c'est là, ok, ils sont là, ils sont dans les refrains, là, après ça, ils sont plus dans les couplets, ils sont plus dans cette bout-là. Fait que c'était le fun.
Est-ce que quand tu rejoues avec eux, tu revois le ticu à 14-15 ans avec ses chums dans le sous-sol, dans le garage, à créer ce band-là? Parce qu'évidemment, tu joues moins souvent avec eux.
Ouais.
À l'époque, est-ce que ça revient en toi à chaque fois?
Oui, c'est ça. Moi, en fait,
c'est des chums d'enfance, ça, c'est des amis de secondaire.
C'est des amis de primaire, de prématernelle. Les jumeaux, le prématernelle ensemble, là. C'est quelque chose. Je les ai vus plus souvent, eux, que ma famille. On partait là, à répéter pendant 17 ans dans le local de répète, une fois par semaine, en moyenne. Là, c'est de la chirurgie qu'on faisait, là. Puis partir les fins de semaine, vivre les premiers trips. J'ai vécu mes 18 ans, je les ai fêtés à Chicoutimi en tournée. Là. Déjà là, de savoir que mes parents me laissaient aller,
oui,
c'est quelque chose. Là. En tout cas, bref, tout ça pour dire que oui, ça me fait de quoi de me retrouver sur scène avec eux. Là, la dernière fois, c'était le 28 janvier. Là, ils sont en super belle tournée, eux autres, de leur 30e. Ils ont vraiment une belle tournée cet été. Cette année, en fait. Puis moi, je les ai pas encore intégrés dans le show, disons. J'ai essayé cette année, mais c'était trop. Il y avait trop de conflits d'horaires. Mais c'est sûr que pour le Bang Bang, à un moment donné, ça va donner. Peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais disons, les gros shows que j'ai fait avec eux dans le contexte heavy metal, c'est il y a 5 ans, pour le 25e anniversaire, où j'ai fait quand même le pas l'Heavy Montreal, mais le Rockfest de Montebello avec eux, les Franco, je me suis ramassé la veille avec Anonymous pour leur 25e, puis le jour après, mon show à moi, avec Anonymous, j'avais Michel Faubas, Stephen Faulkner, Louise Forestier, Paul Piché, une chorale, écoute, c'était complètement fou, là. C'était complètement débile.
C'est des cadeaux, ça, dans la vie, ça, déjà.
Oui. Important. Fait que j'étais dans les contextes Anonymous, et ils sont tout le temps là, d'une façon ou d'une autre, parallèlement.
Et là, la tournée Bang Bang est commencée ou commence bientôt?
Cet été, c'est comme des shows d'été. Des fois, je sens...
Donc, on se promène un peu pas dedans. On se plein d'univers, c'est de la musique.
Exact. J'essaye. J'ai quand même beaucoup de nouvelles tunes. Je te dirais, la moitié du show, c'est des nouvelles tunes. J'ai quand même pas mal de shows cet été, de Matane à Sherbrooke, bref. La tournée en salle commence vraiment officiellement le 10 octobre. La première montréalaise est le 10 octobre. C'est un jeudi à la Casa d'Italia, encore là. Métro Jean Talon, petite salle qui rentre 200-300 personnes. Et mon band. En fait, la tournée Cagliari Bang Bang, c'est un peu particulier. C'est qu'elle va être présentée sous 4 formes.
Okay.
Des fois en solo, des fois en duo, des fois en trio, des fois en quartet. Puis le quartet, c'est Demetrio Mazzo au drum. Demetrio, c'est un drummer d'origine italienne. La même histoire que moi, ses deux parents sont en Italie. C'est un super drummer qui joue. Il joue beaucoup avec Jérôme Charlebois, mais il joue avec plein, plein de monde, dont il y a un cover band de fous là, qui font un match à Led Zeppelin.
Okay.
C'est comme genre de cover band Led Zeppelin ont comme assuré là, que c'est comme l'ultime
approuvé.
Approuvé par la band, en tout cas par ceux les vivants.
Oh, oui.
Mais sinon, Demetrio, j'ai Marianne Arsenault, nouvelle dans le band, qui est bassiste, qui vient de Rimouski. Elle a joué avec Xavier Caffin, avec Mara Tremblay. Et j'ai un petit nouveau de Saint-Félicien, personne ne le connaît. C'est un multi-instrumentiste, il joue tout, ça n'a aucun sens, il joue tout. Puis s'il ne joue pas, il va l'apprendre. C'est aussi simple que ça, il a fait ça avec l'harmonica. Mais il joue le violon, trompette, trombone, clavier, c'est un tapeau de pied. C'est
précieux dans un band.
Ah, précieux,
tu n'as
aucune idée. Fait que t'aimes ce savoir. Je ne vais pas dire trop fort, mais je ne veux pas me le faire voler. Fait que, et moi, bien sûr, mais c'est la première fois que j'intègre de la distorsion dans mes shows, shows de musique du monde. Fait que de temps en temps, une petite touche, pas heavy metal,
un peu plus rock,
un peu plus rock sur des affaires, mais ça reste musique du monde. Et je suis bien content. Là, cet été, j'ai cassé bien des tunes. Fait que ça, c'est fun de voir des chansons évoluer à travers les shows, à travers le temps.
Marco, si on veut suivre tes spectacles, on va sur le web, tout est là.
MarcoCagliari.com, le site web, il est tellement à jour. Pour ceux qui sont même curieux des voyages en Italie, ça s'appelle l'Italie avec Cagliari.com. C'est sur le site MarcoCagliari.com. Et même, si jamais ça vous tente, on fait des trips vraiment, vraiment le fun depuis quelques années, des shows de salon. Des shows de salon que je trippe, il n'y a jamais
de gens peuvent t'engager, tu vas chez eux. Okay.
Puis des fois, c'est dans le cours, des fois, c'est carrément dans la maison. Je suis devenue une amie, qui est à Trois-Rivières. Elle, à chaque année, le 27 décembre, depuis 3 ans, c'est mon show dans son salon. Puis c'est vraiment le fun. Ça fait des expériences incroyables. Puis c'est le fun d'avoir une certaine intimité là, avec le public. J'adore ça. J'adore autant les gros que les petits shows. Fait que si jamais, tout est là-dessus. Sur MarcoCagliari.com.
Merci encore.
Merci beaucoup, beaucoup. Puis si jamais vous cherchez une fête à l'italienne, la semaine italienne est au mois d'août. Je suis porte-parole pour la 5e année. Et je fais un gros show Cagliari Bang Bang le 16 août dans Petite Italie à Montréal.
Merci encore, Marco.
Merci à vous autres.